Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, le journal dans quelques secondes. 19h15, la carte blanche de l'entrepreneur Philippe Manière. Et à 19h20, le Club des Idées, grand débat ce soir sur le cannabis. Pourquoi la plupart des pays européens ont fait le choix de la dépénalisation et pas la France? Sommes-nous en retard? Sommes-nous trop dogmatiques? On en parlera avec nos invités, notamment le député agriculteur Jean-Baptiste Moreau, fervent défenseur d'une légalisation encadrée. Son argument, un hectare de blé, c'est 300 euros, dit-il. Un hectare de cannabis à cultiver, ça peut rapporter 2000 euros, à bon entendeur. D'abord, toute l'info avec le journal d'Isabelle Millet. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Je vais donner le meilleur de moi-même et je ferai tout pour ramener la victoire, cette fois, quoi qu'il arrive. Même s'il faut mourir sur le terrain.
Manchester City PSG, Mbappé débutera la rencontre sur le banc, mais comme Neymar, on vient de l'entendre, promet de tout donner, eh bien il y a de l'espoir.
Les Républicains se déchirent sur l'attitude à adopter en région PACA. Renaud Muselier met de l'eau dans son vin.
À Marseille, la police des polices enquête après l'interpellation musclée d'un couple de fêtards.
L'Égypte commande 30 avions de combat Rafale supplémentaires à la France. Excellente nouvelle pour Dassault Aviation et pour l'industrie française de défense, nous dira Didier François.
Et puis bientôt des biscuits ou des spaghettis fabriqué avec des larves de scarabée. C'est ça aussi, écoutez le monde changer.
Miam miam. Et puis la météo avec Anis Dadid, la fraîcheur et des giboulées et du vent pour demain également.
Oui, c'est pas très réjouissant comme programme pour un début, mais en effet, je vous l'accorde, Julien. En plus, les températures vont baisser demain. Sera la journée la plus froide de la semaine. Soyez patients parce que le week-end, lui, sera estival. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ce soir, on n'a pas le choix, il faut y croire et surtout, surtout ne pas regarder les statistiques.
Oui, c'est vrai que sur le papier, le PSG ne part pas franchement favori face à Manchester City pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions.
Mais on n'avait pas non plus prévu la remontada au Camp Nou il y a 4 ans. Tout peut donc arriver, Julien Froment.
Oui, d'autant plus que le Paris Saint-Germain, vous l'avez dit, est roi pour déjouer les statistiques. Par exemple, aucun club français n'avait gagné à Barcelone en Ligue des Champions, Paris l'a fait. Aucun club n'avait battu le Bayern à domicile depuis 3 ans. Le PSG l'a fait aussi. Paris est très à l'aise cette saison à l'extérieur qui doit marquer au moins 2 buts de plus que Manchester City pour se qualifier. Rien d'insurmontable pour le milieu de terrain Marco Verratti.
Il faut rester lucide, il faut rester calme parce qu'on va avoir notre opportunité. C'est pas un match qu'on a perdu 4-0, qu'il faut faire un miracle. Sûrement qu'ils sont un petit avantageux pour le match aller, mais je pense qu'on est là. On est proche, on doit tout donner sur le terrain.
Un PSG sans Kylian Mbappé, mais avec d'autres armes offensives, Neymar, Mauro Icardi, André Di Maria ou encore Moïse Kean. Enfin, le porte-bonheur pourrait peut-être venir de Manchester, puisque Sir Alex Ferguson, mythique manager de Manchester United de 86 à 2013, a rendu visite aujourd'hui aux joueurs du Paris Saint-Germain. Et selon la presse anglaise, il aura évoqué les points faibles de l'ennemi commun. On verra sous les coups de 23h si ses conseils étaient avisés.
On verra ça en effet. Merci Julien Froment. Vous nous ferez vivre ce match en direct, en intégralité sur Europe 1 aux côtés de Cyril Delamorinerie. Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle sous la houlette de Lionel Rousseau dès 20h et jusqu'à 23h30. La politique et que celui qui a tout compris lève la main.
Réunion de crise effectivement aujourd'hui chez les Républicains, après l'alliance en région PACA entre Renaud Muselier et La République En Marche.
Et on a bien besoin de votre éclairage. Hélène Terzian du service politique d'Europe 1, vous êtes devant le siège des Républicains, Hélène, où une nouvelle réunion se tient en ce moment. Alors au final, qu'est-ce qui se dessine?
Eh bien, maintenant que l'on est à peu près sûr que Renaud Muselier ne sera pas exclu du parti, il s'agit maintenant de savoir si une autre liste LR concurrente risque d'être montée. Ce que l'on sait, c'est que les proches de Renaud Muselier, Christian Jacob et François Baroin, n'en veulent pas. Dans son communiqué cet après-midi, Renaud Muselier a donné des gages à sa famille politique. Il n'y aura pas, dit-il, d'accord à quelque niveau que ce soit avec En Marche. La députée LR des Alpes-Maritimes, Michèle Tabarot, attend en tout cas d'être rassurée.
On a quelque part une avancée puisqu'on a le sentiment que le fait de s'engager avec En Marche est maintenant abandonné, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la composition de la liste, sur les engagements qui doivent être pris vis-à-vis des Républicains.
La ligne rouge, poursuit-elle, serait de voir des parlementaires de la majorité et surtout la ministre Sophie Cluzel, ex-candidate LREM, sur la liste de Renaud Muselier. Le président sortant de la région PACA a annoncé qu'il étudierait les candidatures au cas par cas. On imagine en tout cas la réunion houleuse avec 2 camps qui s'opposent autour de la table des LR. Résultat du match, théoriquement, d'ici une demi-heure.
Hélène Terzian, merci du service politique d'Europe 1. L'épidémie de Covid recule en France, dans les Alpes-Maritimes. Maritime, depuis ce matin, le masque n'est plus obligatoire en extérieur sur les plages, les parcs et jardins et les espaces verts autour des cours d'eau.
En revanche, il doit toujours être porté en centre-ville, dans les rues, les marchés ouverts ou les places publiques. L'Allemagne va, elle, lever plusieurs restrictions pour les personnes vaccinées ou immunisées. Elles auront le droit, par exemple, d'aller chez des amis ou chez le coiffeur et elles n'auront plus à respecter le couvre-feu.
Deuxième jour d'audience au procès de Nordal Lelandais, jugé pour le meurtre, vous le savez, du caporal Arthur Noyer.
Lelandais qui a donné cet après-midi sa version des faits. Il dit avoir pris Arthur Noyer en stop et parle d'une altercation à propos d'un téléphone. Altercation qui aurait déclenché une dispute et des coups. Il affirme n'avoir jamais voulu le tuer et avoir même procédé à un massage cardiaque en vain avant d'abandonner son corps au bord d'une route. Nordal Lelandais qui, depuis hier, tente de donner une image de gendre idéal. Image mise à mal sérieusement par l'audition aujourd'hui de ses ex-compagnes. Elles ont décrit un homme violent et impulsif.
À Marseille, l'IGPN, la police des polices, ouvre une enquête après l'interpellation musclée d'un couple qui sortait d'une soirée clandestine.
Oui, ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. La scène a été filmée par des voisins. Ce soir-là, les policiers interviennent donc à propos d'une soirée où plusieurs jeunes se sont rendus sur un échafaudage. Sur les images, le jeune homme semble descendre de lui-même. Et c'est à ce moment-là que les choses dérapent, Stéphane Frangy.
Oui, sur les images, on voit d'un côté un jeune homme roué de coups au visage, puis menotté sur le capot d'une voiture, et de l'autre, eh bien, sa compagne qui essaye d'intervenir, jetée au sol à deux reprises, puis aspergée de gaz lacrymogène. Le couple fera ensuite 40 heures de garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, avant de ressortir avec un simple rappel à la loi. Ils ressortent profondément marqués, traumatisés par cette affaire, selon leur avocat Thomas Hugues.
Il a été frappé, il avait le visage tuméfié, c'est terrible. Ah ben ils sont détruits, parce que dans leur chair, ils ont été complètement violentés. Et après, psychologiquement, c'est là où c'est encore beaucoup plus dur. Ce sont des gens qui n'ont jamais été en garde à vue de leur vie. Ils se sont fait humilier, rabaisser par d'autres policiers au commissariat. Ils ont été indignés, humiliés, et heureusement qu'ils ont cette vidéo, parce que sinon, ça se trouve, aujourd'hui, ils seraient encore accusés.
Voilà, l'IGPN ainsi que le défenseur des droits ont été saisis, le couple a porté plainte, et puis on apprend que le parquet ainsi que la préfecture de police ont ouvert chacun de leur côté une enquête, et durant bien cette instruction, à titre conservatoire, les deux policiers en cause sont affectés à un autre poste qui n'implique pas de mission sur la voie publique.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
19h06, pardon. Un nouveau succès à l'export pour un fleuron français, l'avion de combat Rafale de chez Dassault.
Oui, l'Égypte qui en avait déjà commandé en commande 30 supplémentaires, montant estimé de la transaction près de 4 milliards d'euros. Écoutez, Éric Trappier, il est le PDG de Dassault Aviation.
La réussite du Rafale avec ce nouveau contrat de 30 avions pour l'Égypte permet à la ligne de fabrication qui consiste dans les usines de Dassault Aviation, les usines de Thales, les usines de Safran et de l'ensemble de la supply chain constituée de 400 entreprises dont beaucoup de PME, d'assurer un avenir à 3-4 ans en termes de fabrication. La fabrication du Rafale se fait quasiment à 95% en France et donc c'est une bonne nouvelle pour l'emploi en France et une bonne nouvelle pour l'industrie de défense en France.
Le PDG de Dassault Aviation, il était au micro européen d'Aude Leroy.
Alors cette vente, on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François.
Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce décollage des ventes du Rafale, c'est une excellente nouvelle bien sûr pour Dassault Aviation et pour l'industrie française de défense.
Mais c'est absolument vital et oui, pas que pour Dassault. La production de Rafale, ce sont aussi 7000 salariés dans plus de 500 petites et moyennes entreprises. Et puis surtout, si la France veut conserver une certaine indépendance, eh bien, elle doit être capable de concevoir et de produire ses propres armements, particulièrement dans des secteurs aussi stratégiques que l'aviation. Il est donc tout à fait indispensable de développer, puis d'entretenir un tissu industriel solide, ce qui passe évidemment par des succès à l'exportation, parce que les armées françaises ne peuvent pas garantir la viabilité économique des entreprises nationales sur le long terme avec leur seul budget et leur seule commande. Elles n'ont pas la taille critique qu'ont les armées américaines. Et c'est en cela que cet accord avec l'Égypte est une excellente nouvelle, parce qu'il pérennise durablement la position de la France dans le peloton de tête des grandes puissances aéronautiques. On est maintenant à 132 appareils vendus à l'étranger, avec le lot des 24 premiers avions livrés à l'Égypte, 24 au Qatar, 36 à l'Inde, 18 à la Grèce. Et ce n'est pas terminé, sachant que l'armée de l'air, elle, ne compte que, de ce point de vue-là, 128 Rafales et la marine 42.
Alors les ventes d'armes, c'est aussi une façon de nouer des alliances, Didier.
Alors tout à fait, hein, c'est même fondamental aussi, là, les partenariats stratégiques qui sont bâtis autour de ces exportations de matériel, même très sensibles, sont évidemment conçus comme des briques de notre architecture mondiale de sécurité. Aujourd'hui, on le voit, la Grèce et l'Égypte
qui achètent des Rafales sont fortement rapprochés de la France, justement parce qu'elle a démontré une certaine fermeté face à l'affirmation brutale des ambitions turques en Méditerranée. L'Inde, ou l'Australie qui, elle, a commandé des sous-marins, apprécie également cette solidarité française dans l'océan Indien, ou en mer de Chine, lorsqu'il s'agit de faire respecter la liberté de navigation dans les eaux internationales. En fait, on ne peut pas aujourd'hui parler de vente d'armes hors de ce contexte international, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France a renforcé en 2020 sa position, donc troisième exportateur mondial avec 8,2% du marché, derrière les États-Unis qui, eux, alors là, caracolent en tête à 37%, et puis la Russie qui est à 20%.
Merci Didier. Didier François, tous les soirs dans le journal de 19h, dans Europe Soir.
Le projet de loi climat, adopté tout à l'heure en première lecture, il prévoit notamment la suppression de plusieurs lignes aériennes intérieures en cas d'alternative de moins de 2h30 en train, ou également la création d'un délit d'écocide, un texte jugé trop timide par les écologistes face à l'urgence climatique. Et puis des larves dans votre assiette, ça vous dit ? Eh bien, pas besoin de faire Koh-Lanta. L'Union européenne vient en effet de donner son feu vert, Isabelle Horry, à la mise sur le marché d'insectes en tant qu'aliment. Expliquez-nous, Isabelle.
Eh bien, c'est l'avenir, Isabelle. Les insectes, c'est bourré de protéines, de vitamines, de fibres. C'est très sain. Et leur élevage émet nettement moins de CO2 que celui des animaux plus grands. Donc, en plus, c'est raccord avec nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Concrètement, l'Europe passe un cap. Il y avait déjà eu des expériences de vente d'insectes ou des autorisations provisoires, comme en Belgique. Mais c'est la première fois que l'Union européenne autorise officiellement à l'échelle de tout le continent un nouvel aliment. La réglementation oblige en effet les industriels à demander cette autorisation de mise sur le marché. C'est l'entreprise française Agronutrice qui avait soumis son produit. En l'occurrence, des vers de farine, ce sont des larves de scarabée. En poudre, ils vont vous permettre de faire des biscuits, ils pourront remplacer le blé dans les pâtes. Mais Isabelle et Julien, vous pourrez aussi les grignoter, griller entiers devant le match de foot, si vous préférez.
Chouette.
Mais c'est pas mal. Ramenez-nous-en, on a envie de goûter. On a envie de goûter.
Moi, j'attends. On a hâte.
Bon match, en tout cas, en attendant. Avec ou sans larves et sans criquets. Merci Isabelle, on vous retrouve demain, évidemment, à partir de 18h. Un coup d'œil à la météo. Avec de l'humidité au programme demain, ma chère Anissa, pas franchement un temps de 5 mai.
Hein. Non, pas franchement. Là, on est un peu hors saison, effectivement, Julien. Après la perturbation qui a touché le pays aujourd'hui, nous avons un ciel de traîne qui se met en place dans la matinée. Demain, des Pyrénées aux Alpes, encore de la pluie, une pluie qui va s'évacuer pour laisser place à un ciel partagé entre soleil et nuages. Sur les reliefs, la neige est de retour à basse altitude, puisque nous aurons des flocons à partir de 800 mètres sur certaines montagnes. En Corse, c'est un vent tempétueux qui se lève. Dans le Grand Est, c'est agité demain. Dans le Grand Est, l'après-midi sera rythmé par des giboulées. Et en plus de ce temps vraiment pas de saison, les températures sont en baisse demain, 0 à 14 degrés le matin. On a même un petit risque de petite gelée dans le centre-ouest. Dans l'après-midi, 11 à Charleville-Mézières, c'est frais, 12 à Metz et Belfort, 13 à Aurillac, ça baisse, 14 à Vannes, Paris et Saint-Étienne, 16 pour Biarritz, 17 à Bordeaux, 18 à Lyon, 22 à Marseille et 24 à Nice. Il fait chaud sur la Côte d'Azur parce qu'on a un effet de fun avec le vent. Mais vous voulez toujours des bonnes nouvelles, Julien.
J'aime bien les bonnes nouvelles.
J'ai gratté, j'ai cherché. Et je peux vous dire que samedi et dimanche, vous pouvez sortir les brochettes et les chipots. Va faire beau sur toute la France.
Les brochettes et les chipots.
On aura un temps estival.
Ça marche. Merci Anissa. Bonne
soirée.
Vous nous confirmez ça demain, j'espère,
bien
à partir
sûr.
De 18h. Merci à vous. Vous restez avec nous 19h12 dans quelques secondes. Le débat du Club des Idées sur la dépénalisation du cannabis. D'abord, la carte blanche qui est signée ce soir de l'entrepreneur Philippe Manière.
La Caisse d'épargne vous présente la carte blanche. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Julien.
Est-ce que vous allez bien Philippe?
Ça va,
non,
merci.
Mais je me pose la question parce que le choix ce soir de votre carte blanche est assez surprenant. Vous vous demandez si les gens vont vraiment retourner au restaurant. Quelle drôle d'idée!
Alors, je vous rassure, Julien, j'ai moi aussi déjà fait quelques réservations en terrasse pour l'après 19 mai. C'est sûr qu'on sera tous très heureux de reprendre cet usage dont le Covid nous aura si longtemps privé et qui fait partie intégrante de notre mode de vie à nous Français. Donc oui, à la libération, entre guillemets, dans quelques jours, ce sera la ruée. Pas de doute là-dessus. Mon questionnement porte surtout sur l'après-ruée, si je puis dire. Parce que dans un mois ou deux, si tout va bien, aller au restaurant sera redevenu une possibilité de tous les jours, une habitude, oui. Oui, mais cette habitude, elle sera en concurrence avec une autre habitude plus nouvelle, mais que beaucoup d'entre nous ont contractée depuis l'automne, se faire apporter des bons petits plats à la maison ou au bureau. ce qui permet de bien manger, sans préparer, comme au restaurant, mais sans sortir de chez soi.
Philippe, c'est pas la même chose quand même.
Ah, c'est sûr, hein, au restaurant, on bavarde avec le patron, avec les serveurs, on change de cadre,
la
on fait des rencontres. C'est ça, toute cette convivialité, elle a beaucoup de charme. Mais le restaurant, en même temps, bah, c'est parfois bruyant. Si on veut être discret, ce n'est pas forcément génial. Et puis, ça suppose de se déplacer, d'attendre à chaque plat. Ce sont autant d'inconvénients. Alors du coup, moi, ce que je soupçonne, c'est que pas mal de gens retourneront moins souvent au restaurant. Et je pense en particulier à la clientèle d'affaires, qui est pourtant la clé de voûte hein, oui. du business model des établissements les plus chics. Vous savez, depuis 6 mois, Julien, beaucoup de patrons invitent à déjeuner au siège de leur entreprise, faute de restaurant. Ils se font livrer d'excellents repas qui sont servis dans une salle de réunion qui n'est pas toujours moche. Ça permet des conversations tranquilles, ça économise le temps de transport, c'est moins cher. Et on n'y perd même pas en variété, tellement de bonnes maisons proposent aujourd'hui le fameux click and collect. Alors la tentation, je crois, sera forte pour eux de prolonger cet usage. Ce sera peut-être aussi le cas d'ailleurs de certains particuliers pour leur dîner.
Le click and collect qui, entre parenthèses, vient de rentrer aujourd'hui même dans le Petit Larousse.
Ouais,
voilà,
bah oui,
le signe d'une époque. Alors le restaurant sans le restaurant, c'est une drôle d'innovation tout de même, Philippe
Manière. En fait, ça serait presque un retour aux sources, Julien, parce qu'on ne le sait pas, mais le restaurant tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est d'apparition assez récente. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, ça n'existait pas. Il n'y avait que des auberges, où on mangeait d'ailleurs rarement bien. Et les bons cuisiniers, les vrais chefs, eh bien, ils étaient au service de grandes familles, dont le nom est d'ailleurs encore souvent attaché à certains plats, le potage du Barry, la purée soubise, etc. Et le boom du restaurant, bah, il date en fait de la Révolution. Les aristocrates qui avaient échappé à la guillotine et à la ruine, ils étaient en exil ou bien ils faisaient profil bas. Et donc les grands chefs ont été obligés d'ouvrir leur propre établissement au lieu de nicher chez les autres comme ils le faisaient auparavant. Et dans le fond, demain, on pourrait bien avoir un hybride de ces deux mondes. D'un côté, le restaurant, oui, pour tout ce qu'il apporte en sociabilité, en fantaisie, en précision de la cuisine aussi. Et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler un chef à la maison, comme sous l'Ancien Régime, oui, mais un chef partagé par la magie, justement, du click and collect, donc de l'Internet. Ce serait une sorte de retour vers le futur gastronomique.
Une fois n'est pas coutume, je m'inscris en faute cette carte blanche. Vive le restaurant,
j'espère
vive
avoir
la convivialité.
Tort. Moi aussi.
Merci Philippe Panière. Et je vous paierai un resto la prochaine fois,
ah bah j'ai pas tout
dès
perdu.
Qu'ils sont ouverts. Merci à vous.
Merci.
C'était la carte blanche avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Europe 1, Julien Bugier.
19h16, le grand débat du Club des idées dans quelques secondes. Dépénalisation du cannabis, pourquoi la France est en retard? On vous dit tout juste après la pause, à tout de suite. Et ce soir dans le Club des idées, le cannabis sans débat. Pourquoi la France semble-t-elle en retard sur la question par rapport à ses voisins européens, sur la légalisation, sur la dépénalisation? Emmanuel affirme y être opposé alors que les Français, eux, y sont plutôt favorables, à droite et à gauche d'ailleurs, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons aussi sécuritaires, vous verrez pourquoi, et dénonce un fait, la prohibition ne fonctionne pas, les Français en consomment toujours plus d'ailleurs du cannabis, alors faut-il se résoudre à cette légalisation ou dépénalisation du cannabis? On en parle ce soir avec nos invités, et notamment le député La République En Marche de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec Pierre Cobb, bonsoir. Vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne et spécialiste de l'économie de la drogue. Et on en parlera également avec nos invités et vos témoignages qui sont nombreux ce soir dans quelques instants au standard d'Europe 1. Alors, Jean-Baptiste Moreau, je commence avec vous puisque vous avez décidé de proposer demain une légalisation encadrée du cannabis lors de la présentation de votre rapport parlementaire sur ses usages récréatifs. Cela fait 4 ans que vous menez cette bataille. D'abord, en quelques mots simples, pourquoi y êtes-vous favorable ?
Ben pour deux raisons principales, à la fois pour une raison de santé publique et de sécurité publique. En fait, les politiques publiques de lutte contre les trafics de drogue et notamment contre le trafic de cannabis sont en échec total depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on fait des lois de plus en plus dures, qu'on met de plus en plus de policiers sur le terrain pour lutter contre le trafic.
Et ça
fait 30 ans que la consommation augmente. Aujourd'hui, on est à 1 million de Français qui avouent fumer quotidiennement un joint. Donc, je veux dire, on peut toujours continuer à dire qu'on va mettre davantage de flics sur le terrain, mais on a auditionné plus de 80 personnes pendant ces auditions de la mission qui durent depuis maintenant 2 ans. Les policiers nous disent, oui, on démantèle des réseaux. Quand on en démantèle un, le temps qu'on en démantèle un, il y en a 3 qui se sont créés. Donc, je veux dire, on est totalement inefficace sur ces politiques sécuritaires. Sur des niveaux de consommation comme on est aujourd'hui, la prohibition ne marche pas. On l'a vu dans les années 30 avec l'alcool aux USA. Sur des niveaux de consommation tels qu'on est aujourd'hui, ça ne marche pas. on laisse nos gamins exposés à ces produits qui sont dangereux. Hein. Il n'est pas question de dire par cette mission que le cannabis est inoffensif et qu'il faut tous en fumer. Ouais. C'est vraiment qu'aujourd'hui, on est dans des situations totalement d'impasse, avec des gamins qui trouvent tout et n'importe quoi, avec du cannabis qui est coupé avec des pneus, qui est coupé avec de la saloperie. Il y a
une forte proportion aussi en THC,
on en parlera tout à l'heure. Qui rend plus dépendants et donc qui est encore plus dangereux sur des jeunes. Donc voilà, il faut légaliser, mais légaliser, ce n'est pas la loi de la jungle. On n'est pas des 68 à retarder. On n'était pas né en 68.
Ne dites pas tout parce qu'on a le temps. On a 40 minutes. Bon, c'est ça va alors. Du débat au long cours. Jean-Baptiste Moreau, il paraît que vous êtes un dur à cuire. Est-ce que c'est le cas?
Il paraît que j'ai le cuir épais et que oui, quand j'ai des convictions, je les défends assez fortement.
Je vous pose la question parce que ça fait 4 ans que vous menez ce combat. Est-ce que vous pensez que c'est un combat que vous allez gagner? Vous me répondrez dans quelques secondes. Je voudrais vous faire écouter deux extraits du candidat Emmanuel Macron, le 4 septembre d'abord 2016.
Aujourd'hui, le cannabis pose un problème, en effet, de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Et donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue. Le sujet est ouvert et doit être considéré. Donc, je ne suis pas contre.
Et je voudrais vous faire écouter le président de la République, Emmanuel Macron, en déplacement à La Réunion le 25 octobre 2019.
Soyons clairs, je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis ou à des usages non encadrés. Parce que là, pour le coup, j'ai jamais vu d'études robustes montrant que ça n'avait pas d'effet sur la vigilance, particulièrement des plus jeunes. Par contre, le cannabis thérapeutique, c'est vrai, a des vertus.
Réaction Jean-Baptiste Moreau.
Oui, mais je suis d'accord avec les deux choses qu'on dit le président de la République. On a travaillé sur le cannabis thérapeutique, cannabis bien-être sur le début de la mission, et effectivement, il y a un intérêt. Il y a des patients qui attendent, qui sont victimes de sclérose en plaques, qui n'ont plus aucune solution. Et il y a un essai thérapeutique qui a démarré maintenant depuis un mois dans certains hôpitaux français, avec à peu près 3000 patients qui vont pouvoir bénéficier de ce traitement. Mais ce qu'on leur propose, justement, c'est un usage encadré. C'est pas la loi de la jungle. Oui. Évidemment que même s'il y a légalisation, il y aura interdiction pour les mineurs, parce que sur des cerveaux en formation, ça présente un certain nombre de dangers et ça peut déboucher sur un certain nombre de pathologies. Mais sauf qu'au lieu de lutter contre 100% du trafic tel que c'est le cas aujourd'hui, les policiers n'auront plus à lutter que peut-être 40%. C'est l'exemple du Canada qui a légalisé il y a 2 ans. Le marché noir est passé à 40%. La consommation des mineurs a décru. Donc est-ce qu'on peut tirer les leçons d'autres pays qui ont évolué sur ce plan-là ou est-ce qu'on continue sur des politiques de répression qui ne marchent pas?
Bien, monsieur le député, vous savez ce qu'on va faire? On va poser la question à Christophe Rouget, commandant de police, secrétaire général des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir Christophe Rouget.
Bonsoir.
Est-ce que la répression est inefficace? Faut-il dépénaliser à minima le cannabis, comme le dit le député Jean-Baptiste Moreau?
Légaliser, pas dépénaliser, c'est pas pareil.
Force est toutefois de reconnaître que de manière globale, il n'y a finalement jamais eu autant de criminalité, en tout cas liée aux stupéfiants qu'aujourd'hui. Tous les indicateurs sont au rouge et certaines thématiques, on le voit par exemple avec la place de Stalingrad, existaient déjà il y a 20 ans. Oui. Après, le problème, vous savez, moi, au cours de ma carrière, j'ai annoncé à de nombreuses reprises à des familles la mort de leur fils ou de leur fille parce qu'ils étaient à cause du cannabis, sur des accidents du travail, des jeunes se suicider, des jeunes avoir des accidents mortels.
Mais c'est le cas avec l'alcool aussi.
Tout à fait, commettre des meurtres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cannabis, il est 3 fois plus puissant qu'il y a 20 ans.
Mais
quel cannabis allons-nous légaliser?
Mais ce que dit Jean-Baptiste Moreau, il y a deux choses. Il y a d'abord, la répression est inefficace parce que la France est l'un des pays les plus répressifs sur le cannabis et pourtant, c'est l'un des pays d'Europe où l'on en consomme le plus. Je vous épargne les chiffres, mais c'est vrai qu'ils sont là. 17 millions de Français qui déclarent avoir pris du cannabis et près d'1 million qui en consomment régulièrement. Et puis, c'est chronophage aussi pour la police. 145 000 personnes sont interpellées chaque année pour usage de stupéfiants. 90% d'entre eux concernent le cannabis. Ça vous prend beaucoup de temps pour des réseaux que vous n'arrivez peu ou pas à démanteler. Est-ce que dépénaliser, ça ne serait pas la solution?
Cette discussion relève du débat politique et des choix de société qui sont opérés par les citoyens à travers les élus, les députés, à travers
leurs représentants. Terrain, qu'en pensez-vous?
En nombre de terrains, nous sommes obligés de montrer qu'il y a beaucoup de dangers. Nous sommes obligés de dire qu'aujourd'hui, le cannabis, il est 3 fois plus puissant qu'il y a 20 ans. Donc, quel cannabis allons-nous légaliser? Aujourd'hui, le taux de THC, c'est la molécule qui fait les effets psychotroques, augmente sans arrêt. Alors, est-ce qu'on va légaliser la marijuana des hippies dans les années 70 ou les nouveaux cannabis super puissants avec des molécules de synthèse qui n'ont de marché? Donc, c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, nous avons un grand banditisme opportuniste, c'est un peu le registre des stupéfiants, où le banditisme vous livre à domicile de la cocaïne, de l'héroïne, des drogues de synthèse ou du cannabis. Et donc, vraiment, nous sommes dans une situation compliquée parce que nous avons une démocratisation des méthodes mafieuses hyper violente. Autrefois, c'était réservé aux barons de la drogue. Hein. Oui. Mais aujourd'hui, les kidnappings, les règlements de compte, les fusillades, vous le voyez dans vos journaux, les fusillades entre gangs sont le lot des petits dealers de quartier. Et les consommateurs n'ont pas conscience de tout ce qu'implique cette consommation.
Bien. Merci infiniment, Christophe Rouget, pour ce témoignage qui nous apporte énormément, effectivement, dans le débat. Pierre-Alexandre Kopp, avocat à la cour de Paris, au barreau de Paris. Votre réaction, d'abord, c'est vrai ce qui vient d'être dit. Si demain on dépénalise le cannabis, il y a un marché parallèle qui va se mettre en place. Parce qu'une dépénalisation, forcément, elle se fera sur un taux de THC. Et demain, il y aura des dealers pour vendre du cannabis avec du THC encore plus fort, comme ça se fait aujourd'hui. 30%, 40%, je crois, de THC. C'est quasiment de la drogue dure, là.
Alors, d'une part, distinguons la dépénalisation de la légalisation. Dépénaliser, c'est dire que la consommation cesse d'être un délit, c'est-à-dire que vous êtes pris avec une consommation personnelle et oui, vous n'êtes pas sanctionné. Ça, c'est un système qui est assez hypocrite, parce que comment est-ce que les gens peuvent consommer si jamais il n'y a pas par ailleurs un système qui leur permet d'être approvisionné. Donc c'est pour ça que personnellement, je ne suis pas pour la dépénalisation, mais bien pour la légalisation. Premier point. Deuxième point, évidemment, la légalisation, c'est pas tout le monde défoncé du soir au matin, c'est un régime strict de contrôle. Et qui dit régime strict, vous avez parfaitement raison, dit marché noir. La question, c'est quelle sera la taille du marché noir. Plus elle est petite, plus on restreint la marge qui est laissée aux économies, aux organisations criminelles, mieux se portera la société. Donc oui, il n'y a pas de solution miracle, mais la légalisation permet de, on va dire, d'ôter le pain de la bouche des organisations criminelles qui, pour aujourd'hui, pour l'instant, ravitaillent le marché en cannabis.
Et ça permet, on en parlera dans quelques secondes, Jean-Baptiste Moreau, c'est un argument que vous mettez souvent en avant, et qui fait mouche. Ça permettra aussi de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, via les taxes, via le contrôle du marché, et puis de favoriser aussi peut-être nos agriculteurs. D'abord, un mot sur cette légalisation. C'est bien le sens de votre démarche.
Oui,
vous êtes favorable à
l'égalisation. Oui, c'est bien ça. Et monsieur a raison, c'est légalisation, pas dépénalisation. Parce que dépénalisation de l'usage, au contraire, ça stimule le trafic et ça stimule le marché noir, puisqu'on légalise, on dépénalise l'usage, mais pas la production et la vente. Mais oui, c'est bien sur la dépénalisation. Oui. Et l'argent qui va permettre, doit vous pouvoir permettre de faire de la vraie prévention. Mais de mettre le paquet sur la prévention dans les collèges et dans les lycées, parce que vous ne pouvez pas faire de la prévention si le produit est interdit. C'est illusoire de penser ça. Et il faut faire de la vraie prévention pour alerter les jeunes sur les dangers. Donc cette manne financière, elle doit être utilisée presque intégralement, je dirais, sur de la prévention, globalement. Après, la production, c'est une autre problématique. Aujourd'hui, le cannabis vient principalement du Rif marocain, hein, c'est tout à fait clair. Et on voit bien, d'ailleurs, au Maroc, la légalisation est en cours, et pourtant, c'est pas non plus un état des plus libéraux. La légalisation, encore une fois, c'est de façon encadrée. Oui. C'est pas faire n'importe quoi, c'est encadré. Et le témoignage du policier est tout à fait exact. Les produits aujourd'hui, les taux de THC sont en train de flamber. Oui. Si on légalise, il faut limiter les taux de THC et faire la chasse aux taux de THC. Alors, c'est à regarder, c'est à étudier. Hein, probablement autour de 20%, quoi, quelque chose comme ça.
20%, c'est déjà beaucoup, je pense.
C'est déjà beaucoup, mais on est loin des 30 ou 40%. Donc c'est à regarder avec des. Je suis pas médecin, donc c'est à voir avec des médecins à quel taux on limite. Mais il s'agit pas de faire comme au Colorado, parce que au Colorado, ils ont légalisé. Et par contre, là, c'est des taux de THC délirants et des gros problèmes de santé publique.
On continue d'en parler juste après la pause, évidemment, avec vos témoignages aussi, beaucoup de questions qu'on vous fera passer via le standard, et puis l'intervention d'un certain nombre d'invités qui vont nous rejoindre en cours de route. On marque une pause, on se retrouve avec nos invités pour parler de la légalisation du cannabis. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, avec la suite du Club des Idées, débat ce soir sur le cannabis. La France semble en retard sur la question par rapport à ses voisins européens sur la question de la légalisation. Mais c'est vrai que le pari n'est pas gagné aujourd'hui quand on entend par exemple le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin encore récemment. Écoutez-le.
J'ai été le ministre du budget qui a augmenté le prix du tabac. Parce que fumer, ça tue. Et je serai donc le même ministre qui va dire finalement, fumer de la drogue, c'est pas très grave et on va légaliser. Quel message on donne à nos enfants? La lutte contre les stupéfiants, évidemment, elle est très difficile, il faut être très humble, mais elle est capitale pour la sécurité de nos concitoyens.
Jean-Baptiste Moreau, vous êtes député La République En Marche, de la Creuse, vous êtes dans la majorité, vous avez travaillé sur la question, vous êtes favorable à la légalisation, vous proposez demain d'ailleurs un texte sur le sujet. Qu'est-ce que vous répondez à Gérald Darmanin? Et est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous lui avez dit, écoute Gérald, arrête d'être dogmatique, moi je connais le sujet, tous les acteurs qui connaissent bien la question vont dans le même sens. Et est-ce que vous lui parlez en ces termes?
Oui, on parle régulièrement de ce sujet-là avec Gérald et on a des discussions voilà, où on n'est pas d'accord, mais je désespère pas d'arriver à le convaincre. Aujourd'hui, oui, fumer du cannabis, c'est pas bon pour la santé, mais comme fumer une cigarette, comme consommer trop d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Toute consommation excessive est mauvaise. Fumer, c'est pas bon, de toute façon, ça c'est sûr, mais du tabac, du cannabis, c'est la même problématique. Et après, le cannabis en tant que tel, ce qui pose problème, c'est la consommation addictive, massive, régulière et de façon trop importante, mais comme c'est le cas avec l'alcool ou d'autres substances. Et c'est très dangereux, je le répète une nouvelle fois, pour les jeunes. Évidemment, il ne s'agit pas de nier les dangers de la consommation massive et répétée du cannabis.
Oui.
Juste aujourd'hui, la situation actuelle, c'est celle-là. Aujourd'hui, on a une consommation massive, notamment chez les jeunes, et si on ne veut pas envisager d'autres solutions que le tout répressif qui échoue régulièrement depuis 30 ans, on va continuer dans cette logique-là avec des trafics qui en plus financent du trafic d'armes, voire du terrorisme par derrière, parce qu'il ne faut pas être innocent sur les volumes financiers. Il y en a très peu qui restent dans les quartiers, beaucoup partent à l'étranger dans le financement d'autres activités.
Pierre-Alexandre Cobb, vous êtes avocat au barreau de Paris. On parle de cette volonté du député ici à ma droite, Jean-Baptiste Moreau, de vouloir légaliser, comme certains le proposent également, le cannabis. Aujourd'hui, le sens de l'histoire, c'est plutôt la dépénalisation, hein, puisque quand on regarde les pays autour de nous qui ont dépénalisé, il y en a beaucoup plus qui ont dépénalisé que légalisé. Je pense par exemple à l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse, la Tchéquie, avec des fonctionnements à chaque fois différents, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais la légalisation à proprement parler, il y en a peu. Il y a l'Uruguay, il y a le Canada, il y a l'exemple du Portugal, il y a des États américains. Mais c'est assez mineur pour l'instant.
Il y a même une loi aux États-Unis, une loi fédérale qui est en train de passer aujourd'hui au Sénat sur la légalisation du cannabis.
Pierre-Alexandre Coppe.
Alors, très franchement, je pense que la dépénalisation est une mauvaise idée. Parce que c'est faire la moitié du chemin. Alors que politiquement, ça soit plus facile à faire passer. Parce qu'évidemment, le raisonnement est simple. On dit le consommateur est innocent, le trafiquant est coupable. Ce qui, par ailleurs, n'est pas tout à fait faux. On dit on dépénalise, donc en fait, on met les innocents de côté. Mais c'est absurde pour une raison simple, c'est qu'en fait, vous dopez la consommation. Vous dites c'est dépénalisé. De facto, ça veut dire que le prix baisse, le prix réel. Donc si le prix baisse, la consommation augmente, donc les profits des organisations criminelles qui continuent à approvisionner le marché vont augmenter.
Oui.
Dépénaliser, c'est doper le système criminel, ça me paraît une très très mauvaise chose.
Bien, on a des questions d'auditeurs, d'auditrices à vous soumettre l'un et l'autre. On va commencer par une question de Raphaël.
Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 26 ans et j'aurais aimé savoir quelle quantité on pourrait avoir sur nous. Pourrait-on en faire pousser à la maison? Alors, si du coup ça devient comme un bien personnel qu'on peut ensuite utiliser à n'importe quelle fin ou si ça doit vraiment rester encadré et pour une consommation privée.
Voilà, on n'y est pas encore, hein, mais on se projette. Voilà, comme si demain ça arrivait. Est-ce que ça serait le cas? On pourrait en faire pousser chez soi?
Oui, l'autoproduction, dans les pays qui ont légalisé, il y a la possibilité notamment de 5 pieds, je crois, 5 ou 6 pieds suivant les pays en autoproduction de cannabis. Oui, ça peut s'envisager, effectivement. Mais toujours pareil, il faudra des contrôles, il faudra adapter les contrôles, notamment les contrôles routiers, parce que fumer avec du cannabis, c'est dangereux comme comme conduire bourré.
Oui.
Donc il faudra adapter les contrôles par rapport à tout ça. Mais oui, ça peut s'envisager, l'autoproduction, oui, parfaitement.
Alors, deuxième question, Atim.
Moi, c'est Atim, 21 ans. Est-ce qu'il y aurait des endroits spécifiques pour en consommer ou est-ce qu'on pourrait en consommer librement dans les espaces publics? À quel point pourrait-on imaginer une liberté de consommation? C'est-à-dire, est-ce que n'importe quelle personne pourrait en consommer, même les enfants de 16 ans, enfin les gamins de 16 ans, est-ce qu'il y aura un contrôle sur la vente et l'achat de ce produit?
Bon, on va tâcher de se faire simple. Quand on regarde les pays qui ont dépénalisé Pierre-Alexandre Coppe, ça dépend des pays. Il y a des pays où on peut en avoir sur soi, mais pas le droit de le consommer dans la rue, et on peut le faire que dans un environnement privé. Il y a des pays où on peut consommer dans la rue, mais avec un certain nombre de dosages à respecter, pas plus de 3 grammes par exemple, ou pas plus de 5 grammes. Ça dépend vraiment des législations des pays.
Oui, on peut difficilement dire comment ça sera en France, puisque pour l'instant, ce n'est pas. Donc on peut juste s'exprimer à titre personnel et dire comment ça devrait être. Alors,
réponse.
En ce qui me concerne, ce que je crois, c'est que fumer dans la rue, ce n'est pas une bonne chose. Un, parce qu'on est souvent pas loin d'un mode de transport, éventuellement une trottinette ou un scooter, donc c'est pas une excellente
idée.
Et puis
il y a des enfants aussi dans
la rue. Puis ça donne, voilà, ça peut passer d'une main à l'autre, y compris vers un mineur, donc ça ne me paraît pas être une excellente idée. Je pense que ça doit être vendu à des majeurs, vendu sans publicité, bien évidemment, et utilisé uniquement dans le domaine privé.
Oui. Alors William Levenstein est également avec nous par téléphone. Vous êtes addictologue, président de SOS Addiction. Je crois que vous êtes plutôt opposé à la légalisation et d'ailleurs à la dépénalisation aussi du cannabis. Pourquoi ?
Alors j'arrête le pourquoi. Pardon de vous dire que c'est l'inverse. Je suis très favorable à une légalisation qui puisse être encadrée, régulée, comme cela a été dit par
les deux, très bien.
Précédents.
Et bon, autant pour moi, alors.
Oui, je rectifie tout de suite, parce que le pourquoi, je vais pouvoir vous l'expliquer très rapidement dans l'autre sens, mais cela a déjà été dit. 50 ans de prohibition ont montré que c'était une mauvaise politique. Elle a été un triple échec. D'abord, pour le médecin que je suis, un échec sanitaire. Elle n'a protégé absolument personne, mais aussi, vous l'avez évoqué, un échec sécuritaire. Elle a enrichi sans cesse Mafia sans frontières, et après avoir créé des narcos-États, a créé tous les problèmes de sécurité que vous entendez maintenant sur toutes les chaînes d'information et la vôtre également.
Oui.
Et elle a été aussi un échec économique, puisqu'encore une fois, on n'a fait qu'enrichir les réseaux mafieux sans jamais baisser le prix du gramme.
Question à l'addictologue que vous êtes, c'est pas dangereux quand même de dépénaliser et de légaliser, parce qu'il va forcément, je dis forcément, pas sûr, mais il y aura forcément un effet curiosité, donc un petit bond de la consommation au moment où la législation changera. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'addiction et de santé publique qui va se poser ?
Mais bien sûr qu'encore une fois, minimiser les risques d'une substance psychoaddictive, que ce soit l'alcool ou que ce soit le cannabis, ne saurait être un propos médical recevable.
Oui.
Donc s'il y a légalisation, il faut en faire une priorité nationale aussi du point de vue prévention, accès aux soins et réduction des risques. Quand j'entends notre ministre de l'Intérieur dire « je ne vais quand même pas autoriser à fumer de la drogue », il faudrait qu'il comprenne également que la réduction des risques qui a été interdite en quelque sorte par la prohibition n'a pas permis de préciser qu'une des dangerosités justement de la consommation était de continuer la combustion, la voie fumée, et que ce qui s'est posé comme question aux États-Unis, qui avait beaucoup, beaucoup réduit le tabagisme, c'était de comment légaliser, comment autoriser la consommation de cannabis sans relancer la consommation avec combustion, c'est-à-dire la consommation fumée.
Bien.
Donc il serait plus intéressant d'entendre des ministres responsables nous dire comment, si nous devions légaliser, puisque la prohibition est un échec, puisque la dépénalisation est une hypocrisie dangereuse, comment faire des campagnes d'information pour réduire le risque de la combustion, comment faire pour retarder l'âge des premiers usages, pour ne pas dire des premiers abus.
Merci infiniment William Levenstein, je suis désolé de vous couper, mais on a encore plein de choses à dire. Merci infiniment en tout cas pour votre témoignage qui va nous faire réagir, j'en suis sûr. Jean-Baptiste Moreau, il y a un exemple de pays qui est assez intéressant, assez singulier, c'est l'exemple du Portugal. Est-ce qu'on peut peut-être en dire un mot ? Le Portugal, et notamment dans une ville comme Lisbonne, avait un problème de drogue dure y compris, avec l'héroïne, avec le crack à la fin des années 90, et a décidé, dites-moi si je me trompe, de dépénaliser et tolérer l'ensemble des drogues.
L'usage de toutes les drogues.
Quel effet ça a eu ?
Ben, ça a eu comme effet de traiter en fait les consommateurs de toutes les drogues, non plus comme des coupables, mais comme des malades. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, sur des consommations addictives d'un certain nombre de drogues, type le crack ou les amphètes, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est d'abord un problème de maladie. Et donc, ils sont pris en charge globalement dans un parcours de soins, une fois qu'ils sont détectés, et on ne leur met pas des amendes ou on ne les met pas en prison parce qu'ils consomment de la drogue. Et globalement, la consommation de drogue au Portugal a décru.
Oui. Donc, moi, la dépénalisation, c'est de toutes les drogues, je ne sais pas si c'est la solution. Parce que, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, ça stimule les trafics. Parce qu'en fait, c'est assorti.
Pardon,
au Portugal.
Je vais faire une toute petite parenthèse sur le crack, oui. Parce qu'on est rattrapé par l'actualité. Oui. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment du côté de Stalingrad, à Paris, avec une forme d'autodéfense de riverains qui sont insupportés par ces vendeurs, par ces consommateurs. Il y a eu une forme d'accompagnement quand même. On a ouvert des salles de shoot.
Une
salle de shoot. Alors, ce n'est pas pour le crack, c'est pour l'héroïne. Oui. On accompagne par des associations certains de ces consommateurs de drogue et pourtant, ça prolifère.
Oui, mais il faut se mettre dans la situation de quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'insuline. Est-ce que vous allez reprocher à un malade qui a un besoin d'insuline de s'injecter de l'insuline tous les jours? Bon, la réponse, c'est non. Vous êtes confronté à des gens qui prennent de l'héroïne ou qui prennent du crack, qui sont dans la même situation de dépendance et la même situation de souffrance, ou plutôt dans une situation de souffrance extrême, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Alors, on peut effectivement leur faire la chasse, mais ça ne conduit que, je dirais que, rendre plus agressives les scènes de crack, et ça explique l'agacement des riverains qui est tout à fait compréhensible. L'autre solution, c'est de dire, bon voilà, ces gens sont avant tout des malades avant d'être délinquants,
donc,
et donc il faut les traiter.
Qu'est-ce qu'on en fait ?
On les soigne.
Mais comment ?
On les soigne.
On les force à aller s'interner dans les hôpitaux ?
Forcer, c'est jamais une...
Mais comment on fait ?
C'est
que la dépendance est tellement forte.
On offre des solutions, et surtout, on rêve pas. On sait, vous savez, il y a une phrase de Mark Twain à propos du fait d'arrêter de fumer. On lui dit « ça marche d'arrêter de fumer ?» Il répond « oui, ça marche, j'ai déjà essayé plusieurs fois ». Bon, c'est pareil, il faut être rationnel, il faut dire que arrêter le crack, ce n'est pas une question de volonté en une minute. Oui. C'est un long parcours.
C'est un accompagnement par des médecins spécialisés. C'est ce que fait le Portugal, et c'est très intéressant.
J'habite très loin du quartier Stalingrad, c'est vrai que c'est insupportable.
Oui,
c'est
bien insupportable. Bien sûr.
C'est l'enfer pour les riverains, pour les habitants.
Bien sûr, c'est insupportable, et on ne peut pas laisser des gens consommer du crack, et en plus des produits qui, en qualité, sont coupés avec d'autres types de produits qui sont en plus encore plus dangereux que l'original.
Et ça pose des questions de sécurité.
Oui, ça pose des sécurités, mais on ne réglera pas le problème de sécurité si on ne règle pas le problème de santé publique, et l'accompagnement et la culpabilisation ne sont pas des bonnes solutions pour lutter contre les addictions.
Parenthèse fermée, parce que ce n'était pas notre sujet, mais je voulais vous entendre sur ce point. 19h44, on se retrouve dans un instant. On revient à notre sujet sur la légalisation du cannabis. On marquera une pause tout à l'heure, me dit-on dans l'oreillette. On va revenir à nos questions, avec Jennifer. Jennifer qui a une question à vous poser, messieurs.
Bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai 43 ans. Est-ce que ce sera taxé comme le tabac ou pas ? Comment sera utilisée cette taxe ? Est-ce qu'elle sera effectivement utilisée pour accompagner des gens qui vont être dans une addiction ou pour, voilà. Quel est vraiment l'objectif de cette démarche ? Est-ce qu'on est sur une démarche pour encadrer et surveiller ? Ou est-ce que c'est une question plus politique par rapport à ce qui se passe dans les cités ? Et une économie parallèle, en fait, qui fait vivre beaucoup, beaucoup de monde dans ces cités-là.
Alors, qui veut répondre ?
La taxe, c'est... Un mot sur la taxe. Jennifer a tout à fait raison de soulever la question. Une fois que le produit sera légalisé, il y aura dessus une taxe. Et cette taxe est très importante parce qu'elle permettra à l'État, par le montant de la taxe, de fixer le prix. Et on sait, c'est M. Darmanin l'a dit tout à l'heure, il dit « pourquoi est-ce qu'on fait monter le prix du tabac ?» On fait monter le prix du tabac pour que les gens consomment moins. Même chose avec le cannabis, il faut que la taxe soit ajustée de telle sorte que la consommation ne s'enflamme pas.
Alors, et en parallèle, on lutte contre le trafic.
Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que qui dit taxe dit vecteur d'un important business. Et alors, je disais tout à l'heure, vous avez un argument moi, qui me plaît beaucoup. Vous dites un hectare de blé, parce que vous êtes aussi agriculteur,
en l'occurrence,
je précise. Un hectare de blé, c'est 300 euros. Un hectare de cannabis, ça peut rapporter 2000 euros. Donc, ça peut faire aussi une source de revenus très importante pour nos producteurs et nos agriculteurs.
Oui, bien sûr, mais ce n'est pas l'essence de mon combat, en l'occurrence. Je me bats beaucoup pour le revenu des agriculteurs sur d'autres sujets. Là, c'est vraiment un outil de santé publique et de sécurité publique à la fois.
Oui, mais c'est important de le dire.
Mais c'est important,
France, on le sait peu, est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs européens de chanvre.
Mais
n'a pas le droit de cultiver du chanvre ou du cannabis avec du THC, puisque c'est interdit. Mais les agriculteurs sont prêts.
Mais ils font du chanvre pour différents usages. La construction, des maisons qui sont construites en chanvre. Oui. Ce qu'on ne sait pas de bitume, notamment sur les routes, il y a du chanvre souvent. L'éco-construction, il y a beaucoup de créneaux sur le chanvre. Mais on n'a pas le droit aujourd'hui d'exploiter la fleur de chanvre. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exploiter la plante entière, mais pas la fleur de chanvre.
Et
donc
pourtant,
c'est un des combats.
Et pourtant, les agriculteurs sont prêts. On est en ligne avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être Joanny Chetou.
Que je connais très bien.
Bonsoir monsieur, vous êtes agriculteur, vous êtes fondateur de la ferme bio de Pigerolles, ça se trouve dans la Creuse. Et vous êtes prêt à cultiver ce cannabis en cas de légalisation, n'est-ce pas ?
Alors, déjà, avant de pouvoir cultiver du cannabis récréatif, on aimerait déjà cultiver du chanvre bien-être et avoir la possibilité d'exploiter la flore de chanvre industrielle, ce qui nous est interdit actuellement et qui, malheureusement, le CBD est autorisé en France depuis que la France a été condamnée le 19 novembre par le tribunal européen. Oui. Et malheureusement, 99% de ce qui est vendu actuellement en France sous forme de CBD vient des pays étrangers et nous, agriculteurs français, on n'a pas le droit de le vendre.
Donc, vous êtes obligé d'exporter votre production pour être transformé et qui revient en France via un prestataire extérieur, c'est cela ?
Bah, théoriquement, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, mais depuis trois mois, on a pris la décision d'être dans l'illégalité, de transformer, de vendre en France notre production, puisque c'est complètement aberrant. C'est comme
mais
si les boulangers
c'est du bien-être, c'est pas du récréatif.
Oui, c'est du bien-être. Il n'y a pas de cachet. Il n'y a pas de cachet. Enfin, c'est légal, mais à la fois illégal quand on est producteur français. C'est comme si les boulangers français avaient le droit de produire du pain en France.
Monsieur.
Est-ce
que c'est important de rappeler cette espèce de schizophrénie dans la législation française ? Question précise, est-ce que c'est un vecteur important de ressources pour vous ? Est-ce qu'on gagne beaucoup quand on cultive du chanvre et peut-être demain du cannabis récréatif ?
Ah bah, clairement, là actuellement je suis éleveur, donc comme tous mes collègues éleveurs, on est au RSA quasiment, et demain avec la production de chanvre bien-être ou même de chanvre récréatif, demain je me sens un revenu digne, je peux créer de l'emploi sur mon exploitation, ça peut changer ma vie et la vie de plein de personnes, en plus en faisant une production qui a des qualités environnementales, sociétales, ramener du pouvoir d'achat sur un territoire comme le nôtre qu'on a beaucoup besoin, effectivement, il n'y a que des avantages.
Bien. Merci pour votre témoignage, Joanie Chatou. Merci infiniment d'avoir patienté au standard d'Europe 1. Réaction là-dessus, Jean-Baptiste Moreau. Et puis sur le business que ça pourrait représenter, j'ai retrouvé une note du think tank Terra Nova qui avait fait les calculs et dit que ça rapporterait à l'État, en fonction des choix de la légalisation ou non, ça pourrait rapporter 1,3 milliard d'euros de recettes fiscales. Ça n'est pas tout à fait anodin.
Non, c'est pas anodin, ça crée de l'emploi aussi, mais bien sûr que c'est des filières qui économiquement et c'est surtout qu'on contrôlera la qualité de ce qui est consommé, ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui. On aura des produits dont on sait d'où ils viennent, avec quoi ils sont produits, et on sera sûr qu'ils ne seront pas coupés avec des trucs. Ben oui, mais avec des taux de THC qui seront encadrés pour pas nuire à la santé publique. Et aujourd'hui, on est dans des situations d'impasse totale vis-à-vis de ça. Et
alors effectivement, on évoquait tout à l'heure le bon taux de THC. Vous avez été un peu ambitieux,
parce que
20% c'est beaucoup. C'est plutôt 7%.
Oui. 7%. Je me suis surpris, c'est les taux actuels de ce qui est consommé. Qui est
Pierre-Alexandre Cop.
Sur le taux de THC, pas de réaccusation particulière. En revanche, sur les aspects économiques, une petite remarque. On a quand même l'occasion de ruiner des organisations criminelles et de remettre la paix dans des quartiers et simultanément de créer de l'emploi et de la richesse dans les fameux territoires où les agriculteurs se plaignent de faible rentabilité. Donc, comme le disait Joanie Chatou, que ça soit le CBD récréatif, c'est invraisemblable comme situation. Vous vous rendez compte qu'ils sont obligés de cultiver, d'envoyer en Suisse, de faire transformer, de faire exporter vers la France et là de distribuer. On attend toujours une modification de la réglementation qui leur permettra eux-mêmes de vendre du CBD récréatif. Et puis ensuite, bien évidemment, de vendre du cannabis, du CBD bien-être, et ensuite, évidemment, de vendre du cannabis récréatif.
Jean-Baptiste Moreau, est-ce que vous en avez parlé directement au président de la République?
Oui, on a échangé sur ce sujet. Je pense
pourquoi
que là-dessus...
Pourquoi a-t-il changé l'avis
mais il veut ouvrir quand même un débat. Donc c'est un peu ce qu'on
il
avait...
Il veut ouvrir un débat et en même temps, il dit le débat est clos puisque je ne suis pas favorable à la
On va essayer de
le
convaincre. Je vais essayer de le convaincre. J'ai déjà réussi sur un certain nombre de choses. Je désarme pas et j'espère bien y arriver là-dessus. Sur la question de la sécurité publique, c'est vraiment du courage politique que ça demande, parce que effectivement, et là Gérald Darmanin a raison, le fait de légaliser le cannabis, on va avoir un certain nombre de gens qui vont se révolter, parce que effectivement, on coupe une certaine économie, on va couper une certaine source de financement pour d'autres types de trafic, comme je disais tout à l'heure, trafic d'armes ou terrorisme, donc évidemment, ça va pas se faire sans heurts, mais comme au Colorado, il y a eu une loi d'amnistie sur les petits trafiquants, il s'agit pas d'amnistier les têtes de gondole, mais les petits trafiquants ont été amnistiés, recyclés, parce que les petits trafiquants, en vérité, ceux qui font la chouffe ou autre, ils gagnent le SMIC, ils ne gagnent pas 100 000 euros par mois, ça c'est pas vrai. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est ceux qui sont tout en haut, Ceux-là, il faut les combattre et continuer à les pourchasser. Par contre, ça peut permettre aussi de recycler un certain nombre de personnes dans l'économie réelle et de ne pas les laisser en marge de la société.
Bien, merci infiniment. Débat absolument passionnant. On n'a pas fini d'en parler. Si vous arrivez à faire changer d'avis le président de la République, Jean-Baptiste Moreau,
j'ai déjà réussi,
vous me prévenez et on vous invite pour en parler. Il y a évidemment aucun problème. Merci Pierre-Alexandre Kopp d'avoir été ce soir mon invité. Merci à Yasmine Akatou qui nous a permis de rassembler ses témoignages et ses questions.
Europe 1, Julien Bugier.
19h51 dans quelques secondes, des archives d'Europe Soir avec un hommage ce soir. Hommage à l'ancien grand reporter d'Europe 1, François Ponchelet, dont on a appris la disparition. À tout de suite. 19h53, la suite du Club des Idées avec les archives évidemment d'Europe Soir. Quand le passé éclaire le présent, 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
C'est hier que le général de Gaulle est mort.
Finale de Coupe du Monde.
Moi, président de la République.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Bien ce week-end.
Bonsoir Jean-Gabriel Bourgeois.
Bonsoir.
C'est un jour où, un peu spécial ce soir, mais qui nous tenait à cœur, puisqu'on a appris la mort d'un grand reporter d'Europe 1, François Ponchelet. Il s'est éteint hier à l'âge de 78 ans. Un grand reporter, une légende, selon ses anciens collègues, qui a couvert dans les années 70, 80, de nombreux terrains partout dans le monde, pour la station de radio qui l'a toujours fait rêver.
Oui, et des grands événements de l'histoire du monde, peu de journalistes en ont vécu de façon aussi intense que François Ponchelet. Il le disait lui-même, son souvenir le plus marquant, c'était le 30 avril 1975. Il est à Saïgon, le jour de la prise de la ville par l'armée nord-vietnamienne. On est véritablement plongé au cœur d'une page d'histoire.
Un char avec le drapeau Viet Cong est actuellement en train de se mettre en position. Le drapeau Viet Cong, rouge et bleu, l'étoile jaune. Ce char est couvert de feuillage. Ce sont les Viet Cong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Minh. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils ont des canons braqués. Ils défoncent la grille du palais. J'essaie de m'enfuir le plus vite possible. Les soldats du Viet Cong arrivent dans des jeeps.
Ah, oui.
Ils saluent la population. Vous êtes content qu'ils soient arrivés? Les chars sont amicaux. Ils saluent la population. Incroyable, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense comme vous.
C'est fini la guerre, alors?
C'est fini.
La guerre du Vietnam prend fin dans le micro de François Ponchelet. J'ai eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment, confie-t-il à son retour à Paris.
Oui, François Ponchelet fait partie de ces grands journalistes qui ont couvert des événements aujourd'hui entrés dans les livres d'histoire.
Oui, Syrie, Gabon, Iran, Cambodge, Liban, Thaïlande. François Ponchelet est souvent à l'étranger. Si je vous dis Rome, 22 octobre 1978.
Habemus Papam.
Il est au Vatican pour l'élection du nouveau souverain pontife.
Le pape Jean-Paul II s'est dirigé vers cette foule massée sur la place Saint-Pierre. Il a dit à la foule: vous êtes l'espérance du monde, l'espérance de l'Église et mon espérance, ce qui a provoqué de vifs applaudissements.
C'est encore François Ponchelet, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rambouillet, quand on découvre le corps du ministre Robert Boulin le 30 octobre 1979.
À 6 mètres du bord, le corps de M. Robert Boulin, vêtu d'un costume bleu sombre, d'une cravate et d'escarpins, était à demi immergé dans les eaux noires de l'étang, profond de 50 à 60 cm à cet endroit-là.
Il est aussi à Graceland au moment de la mort d'Elvis Presley l'été 77 et en janvier de cette année-là, retentissant procès à Troyes. Robert Badinter défend Patrick Henry. Il échappe à la peine de mort. Compte rendu d'audience signé François Ponchelet.
J'entendrai encore longtemps le président lancer à Patrick Henry après le verdict: j'espère que vous serez digne de la mansuétude de la cour. Et la réponse: vous ne le regretterez pas, monsieur le président.
Oui, et puis évidemment, il y a un moment d'antenne particulier qui a marqué le journaliste, c'est l'annonce de la mort des obsèques de Georges Pompidou.
Oui, en fait, c'est le jour des obsèques. Avril 1974, la France perd son président et François Ponchelet commente en direct la cérémonie. En 2006, dans l'émission Les Enfants d'Europe 1, le grand reporter se souvient d'un lapsus, anodin pour nous, mais honteux pour lui.
Au lieu de dire que le cercueil du président Pompidou était transporté dans un fourgon mortuaire, j'ai dit le fourgon cellulaire. Et je m'en suis pas rendu compte parce qu'il y avait un bruit épouvantable autour, il y avait des cloches qui sonnaient, il y avait des photographes partout, et un fourgon mortuaire. terrible. Ça n'avance pas vite. Et donc, je l'ai répété à plusieurs reprises.
Un lapsus horrible, confiait-il. Mais les patrons d'Europe 1 à l'époque refusent de renvoyer François Ponchelet. Et à la fin des années 80, il part à Antenne 2 avant de prendre sa retraite en 2006 en Bretagne, où il s'est éteint hier.
J'espère bien qu'ils ont refusé de le licencier pour un lapsus tout de même. Mais c'est vrai que c'était les obsèques de l'ancien président de la République. Merci infiniment pour cet hommage important pour nous, Jean-Gabriel Bourgeois. Merci.
Europe 1, Julien Bugy.
19h58, vous restez avec nous. Romain Oquet pour le rappel de l'info dans quelques secondes. Et puis, tintintin. Ligue des champions, Lionel Rousseau, bonsoir.
Bonsoir Julien,
nous sommes prêts. On va vibrer ce soir avec vous.
Oui absolument, le Paris Saint-Germain face à son destin, face à l'histoire. Le Paris Saint-Germain à Manchester City, le match en intégralité évidemment sur l'antenne d'Europe 1 avec l'analyse de nos experts. Guy Roux, Jimmy Algerino, Laurent Fournier, Nabil Djelli, toute l'équipe. On est ensemble jusqu'à 23h30 et on croise les doigts, bien sûr.
Alors la dernière fois, votre pronostic n'avait pas été le bon malheureusement.
Exactement et je le déplore.
Ce soir vous dites
2-1 pour le Paris Saint-Germain, donc des prolongations.
2-1 pour le Paris Saint-Germain. Merci Lionel Rousseau, on croise les doigts, on espère que vous voyez juste. À tout de suite. Le rappel de l'info, Romain Oquet, dans quelques secondes. Merci de votre fidélité, on se retrouve demain 18h.